Comme le titre l'indique, donc je vais présenter la conception bergsonienne de la libre volonté, puis confronter cette conception aux expériences de type Libet. Donc la conception bergsonienne de la libre volonté se trouve pour l'essentiel dans son premier ouvrage en fait, qui s'intitule donc l'essai sur les données immédiates de la conscience, publié en 1889. Et en fait, il y a trois chapitres dans l'ouvrage. Cette conception est développée essentiellement au chapitre 3. Quant aux expériences de type Libet, il s'agit d'expériences de neuropsychologie dont l'objectif est de déterminer si l'homme est capable de libre volonté. Ces expériences ont commencé avec Libet dans les années 80, puis elles ont été reprises et perfectionnées en fait, par d'autres scientifiques. Donc, pour Bergson, remarque qui explique le plan de cet exposé. Pour Bergson, le problème de la libre volonté est artificiellement obscurci par des erreurs conceptuelles, notamment sur les notions de libre arbitre, de libre volonté pardon, et de déterminisme. L'idée est donc de dissiper ces erreurs avant de considérer les expériences de type Libet. Donc mon plan sera le suivant. Donc partie 1, la notion de libre volonté. C'est toujours selon Bergson. Partie 2, la notion de déterminisme. Partie 3, donc les arguments de Bergson en faveur de la libre volonté chez l'homme. Et partie 4, qui sera un peu plus longue que les autres, une confrontation aux expériences de type Libet. Donc partie 1, la notion de libre volonté. Dans l'essai, je dirais l'essai, c'est le titre raccourci du livre de Bergson. Dans l'essai, donc, Bergson caractérise la libre volonté par les phrases suivantes. Donc, c'est de l'âme entière, en effet, que la décision libre émane. Et l'acte sera d'autant plus libre que la série dynamique à laquelle il se rattache tendra davantage à s'identifier avec le moi fondamental. On trouve aussi cet autre passage. Donc, bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment. Alors dans ces formules, on trouve deux idées. D'abord, une idée assez évidente et qui fait consensus, qui est que ma volonté est libre si elle émane de moi, si elle vient de moi. On pourrait aussi dire si elle est déterminée par moi, en fait, et pas d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Alors, cette condition est nécessaire et on peut la comprendre avec un simple exemple, enfin, un simple cas. Il suffit de la supprimer et de voir ce qui en découle. Par exemple, si les volontés d'une personne A pouvaient être créées à souhait grâce à un dispositif technique dans son cerveau, un dispositif commandé par une personne B ou par un programme informatique, alors on considérerait que les volontés de cette personne A ne sont pas libres. Donc ça, c'est une idée, encore une fois, simple et qui fait consensus. Ma volonté est libre si elle émane de moi. Mais deuxième idée, cette fois-ci originale, et je ne sais pas si elle est propre à Bergson, mais que Bergson développe, c'est « ma volonté est libre si elle émane du moi psychologique entier ». Donc on trouve dans ces passages « si elle émane de l'âme entière ou si elle émane de la personnalité entière ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Bergson, une volonté qui émane du moi entier est une volonté qui émane de l'ensemble de notre mémoire. Il ne fait pas cette traduction dans l'essai, je précise, mais je pense que c'est l'explication la plus simple et intuitive. Donc, qui émane de l'ensemble de notre mémoire, c'est-à-dire de l'ensemble de nos connaissances, expériences, idées, croyances, valeurs, etc. Car tout cela a été progressivement construit au cours de notre histoire et donc fait partie de notre mémoire. Par opposition, une volonté peut émaner d'une partie seulement de notre mémoire. Plus précisément, d'une partie qui tend à fonctionner de manière indépendante par rapport au reste de la mémoire, comme dans le cas des addictions ou des phobies. Alors pourquoi penser qu'une volonté est libre si elle émane du moi entier? Car une volonté qui émane d'une partie seulement du moi, c'est-à-dire d'une partie de la mémoire, est une volonté qui ne repose pas sur nos croyances et valeurs fondamentales, voire qui s'oppose à elles. Pensons par exemple à la volonté d'une personne qui a une addiction ou une phobie, et qui, dans certaines circonstances, ne décide qu'avec une partie très réduite de sa mémoire. Donc pour l'addiction, la mémoire de plaisir vif, et pour la phobie, la mémoire de douleur vive. Comme si ces souvenirs était capable de fonctionner de façon indépendante du reste de la mémoire, des autres souvenirs. Donc, autre exemple, pensons à une personne qui, dans un cadre professionnel, prendrait des décisions en faisant abstraction de ses croyances et valeurs fondamentales. Même si cette attitude est réfléchie de la part de la personne, elle revient quand même à déléguer à une partie seulement de sa mémoire la capacité de décider. Donc pour Bergson, une volonté parfaitement libre est donc une volonté qui émane de l'ensemble de notre mémoire. Par opposition, le degré zéro de liberté correspond à l'action automatique qui ne repose que sur un souvenir de la mémoire procédurale. Et entre ces deux extrémités, il existe des volontés plus ou moins libres où le moi est plus ou moins impliqué dans la décision. D'où l'idée de degré de liberté qu'on trouve dans un passage en fait essentiellement de l'essai. Donc en ce sens, la liberté ne présente pas le caractère absolu que le spiritualisme lui prête quelquefois, elle admet des degrés. Alors cette idée qu'une volonté libre émane de l'ensemble de la mémoire paraît poser problème, car on peut objecter à Bergson que pour chaque décision, nous n'utilisons qu'une partie de nos souvenirs. La réponse de Bergson, qu'on peut fonder avec l'essai, mais aussi avec l'ouvrage qui suit, qui s'appelle « Matière mémoire », donc la réponse de Bergson est que la mémoire est beaucoup plus qu'un simple stock de représentations. Elle possède une organisation, ce qui fait que le tout de la mémoire peut participer à la décision sans que tous les souvenirs soient rappelés un à un. Alors comment cela? En considérant au moins deux choses. Donc la première est que les souvenirs de nos expériences passées sont en quelque sorte synthétisés dans nos connaissances et croyances générales. En termes de psychologie contemporaine, on dirait que la mémoire sémantique, au fond, synthétise la mémoire épisodique. Mais ce faisant, elle a donc déjà un caractère singulier. On n'a pas tous les mêmes souvenirs, enfin les mêmes représentations en mémoire sémantique. Donc, par conséquent, mobiliser une connaissance ou une croyance générale revient en fait à mobiliser tout un ensemble d'expériences de façon synthétique. Et là, le deuxième élément, c'est que tout au long de notre vie, nous hiérarchisons nos connaissances et croyances générales par la réflexion. Ainsi, nos connaissances et croyances fondamentales constituent une sorte de centre de la mémoire, c'est-à-dire en fait le centre du moi. Elles sont une sorte de synthèse réfléchie de tout notre vécu. Par conséquent, si elles participent à la décision, on peut dire que c'est finalement tout notre vécu qui participe à la décision. Et Bergson exprime, je pense, cette idée dans le passage suivant. Donc l'action libre n'exprime plus alors telle idée superficielle presque extérieure à nous, distincte et facile à exprimer. Elle répond à l'ensemble de nos sentiments, de nos pensées et de nos aspirations les plus intimes, à cette conception particulière de la vie qui est l'équivalent de toute notre expérience passée, bref, à notre idée personnelle du bonheur et de l'honneur. Je m'arrête quelques minutes sur ce texte. Dans ce texte, Bergson écrit que l'acte libre exprime notre conception particulière de la vie, ou encore notre idée personnelle du bonheur et de l'honneur. Ce que j'ai appelé, pour le dire plus simplement, nos connaissances et croyances fondamentales. Mais il dit aussi que cette conception particulière de la vie est l'équivalent de toute notre expérience passée. Autrement dit, elle est une synthèse de cette expérience. Une synthèse qui n'est pas seulement passive, mais qui suppose de la réflexion. Et j'ajoute, une synthèse qui est enracinée dans l'expérience, à tel point que la mobilisation de nos croyances, enfin de nos connaissances et croyances fondamentales peut s'accompagner, là, il faudrait que la phénoménologie le montre, peut s'accompagner du souvenir d'expériences précises que Bergson appelle souvenir dominant dans matière à mémoire. Ce que veut dire Bergson, c'est que dans des moments de crise intérieure et de réflexion, non seulement je parle en mobilisant des idées générales, mais des images frappantes de ma vie me reviennent en mémoire, qui sont cette fois-ci des souvenirs épisodiques, mais qui ne sont pas n'importe quel souvenir, qui sont ce qu'il appelle des souvenirs dominants, en fait. Des expériences fondamentales pour notre vie. Enfin, de notre vie. Donc Bergson en déduit que les actes libres sont rares. Ainsi, enfin, les actes parfaitement libres, en fait, on devrait ajouter, sont rares. Ainsi entendu, les actes libres sont rares, même de la part de ceux qui ont le plus coutume de s'observer eux-mêmes et de raisonner sur ce qu'ils font. À la fin de l'essai, il écrit aussi, donc, c'est que si nous sommes libres toutes les fois que nous voulons rentrer en nous-mêmes, il nous arrive rarement de le vouloir. Alors, pourquoi ? Car la plupart du temps, notre activité est routinière, et nous n'avons pas besoin de beaucoup réfléchir pour décider. Il y a un passage dans l'essai où Bergson dit « La plupart de nos décisions intelligentes et conscientes ne demandent pas une grande réflexion et ne demandent pas de convoquer nos connaissances et croyances fondamentales. » Donc ça, c'est pour la notion de libre volonté. Hein, c'est une volonté qui émane du « moi » et plus précisément du « moi » entier. Je passe à la notion de déterminisme. Alors certains penseurs rejettent l'existence de la libre volonté en invoquant ce qu'on peut appeler un déterminisme qui se réclame de la science. Je ne parlerai ici que de ce déterminisme. Donc au début du chapitre 3 de l'essai, Bergson explique que ce déterminisme est inspiré par les théories mécaniques de la matière et que son idée centrale est que tous les processus naturels sont gouvernés par des lois. Cette première affirmation conduit en effet à une seconde affirmation, à savoir qu'à n'importe quel instant présent, le futur est déjà déterminé, c'est-à-dire déjà fixé. Autrement dit, pour le déterminisme, les caractéristiques de tous les événements futurs sont fixées avant que ces événements ne se produisent. On peut donc définir le déterminisme par ces deux affirmations, dont la seconde est la conséquence de la première, le déterminisme qui se réclame de la science, tous les processus naturels sont gouvernés par des lois, par conséquent, à n'importe quel instant présent, le futur est déjà fixé. Dans le débat contemporain sur la libre volonté, on trouve assez largement la même définition du déterminisme. Chez Kane, par exemple, on trouve la même chose. Ce que dit Bergson n'est donc pas original. Cependant, il faut remarquer que cette définition, et je voudrais insister sur ce point, cette définition est plus précise et bien meilleure que celle consistant à identifier le déterminisme au principe de causalité. Le principe de causalité dit tout ce qui existe a une cause. Le déterminisme dit quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus engageant. C'est tout ce qui existe est déterminé, ça veut dire fixé en fait, ou caractérisé avant d'être causé. Pour bien comprendre, on peut considérer les deux schémas suivants qui sont assez simples au fond. Le premier schéma, donc, dans le schéma 1, on considère une série d'états entre lesquels il existe un lien de causalité. Donc l'état 1 est la cause de l'état 2, qui est la cause de l'état 3, etc. etc. Mais on ne considère pas que ces liens causaux obéissent à des lois. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'au moment où l'état 1 a lieu, que l'état 4 est déterminé. Et ça veut dire que les caractéristiques de l'état 4 ne sont pas fixées au moment où l'état 1 se produit. Elles ne sont fixées qu'au moment où l'état 4 arrive. À l'inverse, pour le schéma 2, qui représente la vue déterministe, on considère une série causale entre des états, mais cette fois-ci gouvernée par des lois. Alors vous avez une longue... vous avez l'état 1, plus loi, etc., et l'état 2, état 3, etc., n'arrivent qu'en troisième ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où l'état 1, au moment où l'état 1 se produit, s'il y a des lois, l'état 1 plus les lois font que l'état 2 est déjà fixé, que l'état 3 est déjà fixé, que l'état 4 est déjà fixé, etc., avant que ces états ne se produisent. Et en fait, c'est ça c'est vraiment là ce que dit précisément le déterminisme. Le déterminisme, ce n'est pas tout à une cause. C'est ce qui est causé, est déterminé, est fixé avant d'être causé, avant d'arriver, en fait. Et donc le futur est déjà... Bergson n'a pas cette formule, mais en croisant certains textes, on peut trouver cette idée. On peut dire au fond que Le déterminisme, c'est quoi? C'est l'idée que le futur existe virtuellement avant d'exister actuellement. Et que tout ce qui arrive n'est que l'actualisation de quelque chose qui a déjà une existence virtuelle. Et une existence virtuelle depuis le passé le plus lointain de l'univers, en fait. Pour terminer cette seconde partie, il me semble important de souligner la dimension métaphysique du déterminisme, y compris du déterminisme qui se réclame de la science. Car affirmer que tous les processus naturels sont gouvernés par des lois revient à distinguer deux grandes sortes de réalités, les processus naturels et les lois. Les premiers étant en quelque sorte les processus formés par les secondes. Un peu comme chez Platon, la matière est formée par des idées ou par ce qu'on appelle aussi des formes. Autrement dit, affirmer que les processus naturels sont gouvernés par des lois, enfin le penser comme ça, revient à défendre une sorte de platonisme des lois. Alors, c'est un vaste... J'aborde ici un débat qui est extrêmement riche dans le monde anglo-saxon contemporain. Il y a un débat sur la nature des lois de la nature. Doit-on les distinguer des processus ou non? Alors, effectivement, il y a des philosophes qui considèrent qu'il ne faut pas distinguer ontologiquement les lois et les processus, en considérant qu'une loi est une simple collection de processus, une collection de processus identiques ou similaires. Au point de vue scientifique, cela ne fait pas difficulté, mais au point de vue philosophique, l'hypothèse de loi distincte des processus a pour but d'expliquer l'ordre dans la nature. Quand on dit que les processus sont gouvernés par des lois, cette affirmation, qui n'est pas uniquement soutenue dans le cadre du déterminisme, cette affirmation a pour but d'expliquer pourquoi les processus se répètent. Parce qu'ils obéissent à des lois, parce que des lois gouvernent les processus. Donc si on identifie les lois au processus, on perd l'hypothèse qui explique l'ordre de la nature. Et donc l'argument principal de des philosophes contemporains qui défendent la non-réduction des lois au processus consiste à dire c'est une hypothèse qui explique l'ordre de la nature que la science constate. Si on identifie les deux, on est incapable d'expliquer, enfin en tout cas on perd l'hypothèse explicative de l'ordre de la nature. Ça paraît peut-être extrêmement métaphysique et nébuleux, si je puis dire, mais si on perd la capacité à expliquer pourquoi la nature présente un certain ordre, il est difficile ensuite d'attaquer des problèmes métaphysiques sur l'esprit ou la liberté, puisque c'est des problèmes qui engagent des considérations sur la nature. En fait. Donc c'est compliqué de défendre une théorie incomplète de la nature pour ensuite s'attaquer à des questions aussi fondamentales que l'esprit ou la liberté, la libre volonté. Je conclus cette partie 2 donc en disant que le déterminisme qui se réclame de la science, il est difficile d'éviter qu'il ait un certain platonisme des lois, ou qu'il suppose un platonisme des lois, c'est-à-dire une certaine métaphysique. Ce point est important car il revient à dire que l'opposition entre déterminisme et affirmation que la libre volonté existe est une opposition entre deux métaphysiques, et non pas entre science et métaphysique. Ce que Bergson, je pense, souligne dans l'essai, peut-être de façon plus allusive que ce que j'ai dit, c'est que le déterminisme n'est pas métaphysiquement innocent, c'est une vraie théorie métaphysique, même si elle est inspirée par la science. Troisième partie, donc les arguments en faveur de la libre volonté chez l'homme. Alors, compte tenu de ce qui précède, il est évident que le déterminisme est incompatible avec l'affirmation de l'existence d'une libre volonté. Si ma volonté présente est déterminée par quelque chose qui n'est pas moi, à savoir les lois de la nature, alors elle n'est pas libre. De plus, si elle est déterminée par l'action des lois sur le passé lointain, à un moment où je n'existais pas, ou alors à un moment où j'étais une personne tout à fait différente, de même, on ne comprend pas bien comment ma volonté pourrait être libre. Bergson rejette le déterminisme en affirmant que nos processus psychiques ne sont pas gouvernés par des lois. Autrement dit, il va rejeter la thèse, la première idée du déterminisme. Tous les processus naturels sont gouvernés par des lois. Il rejette cette thèse. D'après lui, donc nos processus psychiques, en tout cas une partie, mais finalement la totalité, obéissent au principe de causalité au sens où ils n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire ils n'arrivent pas sans cause. Mais contrairement aux processus qui concernent la matière inerte, ils ne sont pas gouvernés par des lois. Par conséquent, ils ne sont pas déterminés avant d'être causés. Ou encore, ils n'existent pas virtuellement avant d'exister actuellement. Le passage suivant indique l'argument principal de Bergson développé dans l'essai. Donc dire que les mêmes causes internes produisent les mêmes effets, c'est supposer que la même cause peut se présenter à plusieurs reprises sur le théâtre de la conscience. Or, notre conception de la durée ne tend rien moins qu'à affirmer l'hétérogénéité radicale des faits psychologiques profonds et l'impossibilité pour deux d'entre eux de se ressembler tout à fait puisqu'ils constituent deux moments différents d'une histoire. Tandis que l'objet extérieur ne porte pas la marque du temps écoulé et qu'ainsi, malgré la diversité des moments, le physicien pourra se retrouver en présence de conditions élémentaires identiques, la durée est chose réelle pour la conscience qui en conserve la trace, et l'on ne saurait parler ici de conditions identiques parce que le même moment ne se présente pas deux fois. Je laisse passer la fin du texte, mais le raisonnement de Bergson peut être résumé comme suit. Donc, nos états psychiques profonds ont une dimension temporelle au sens où ils émanent de l'ensemble de notre mémoire. Par conséquent, nos états psychiques profonds sont singuliers, puisque la mémoire, ce sont des vécus singuliers, et je dirais même des généralisations singulières, en fait. Et par conséquent, si nos états psychiques sont singuliers, ils ne peuvent pas être gouvernés par des lois. Une loi ne peut gouverner que des instances de genre. On peut le voir en physique. Une loi physique concerne des choses, si je puis dire, qui ne diffèrent pas qualitativement, mais qui diffèrent quantitativement. Une loi qui relie, je sais pas, la masse à une force, on peut avoir un tas de masses différentes quantitativement, mais il faut quand même que la qualité dont on parle soit la même. Alors, indépendamment d'autres qualités, mais ce que je veux dire, c'est que on pourra en discuter si vous voulez, mais je pense que les lois physiques utilisent des concepts qui renvoient à des qualités qui se retrouvent de façon récurrente, alors que si par exemple, ce que veut dire Bergson, c'est si j'utilise un mot pour indiquer un sentiment je sais pas, de joie ou amour ou tristesse, ce mot renverra à un état qui sera singulier chez l'homme, ce que ne fait pas une loi, enfin un concept physique. Enfin, en tout cas, son argument repose beaucoup sur la notion de singularité des états psychiques profonds, évidemment. Alors, un schéma, on peut présenter un schéma de la vie psychologique selon Bergson. C'est pour voir la différence entre ce schéma et ce qu'on a dit du déterminisme. Dans ce schéma, la ligne horizontale du haut figure l'évolution du moi au fil du temps, c'est-à-dire la réorganisation permanente de la mémoire du fait de l'accumulation de nouveaux vécus et de nouveaux moments de réflexion. Donc les états 1, 2 et 3 correspondent à des états du moi au moment où celui-ci termine une certaine réflexion et s'apprête à décider, d'où l'aboutissement de chacun de ces états à une volonté puis une action. Ce qu'il faut remarquer est que par opposition au schéma qui représente le déterminisme, les états 2 et 3 ne sont pas déterminés au moment de l'état 1, pas plus que les volontés 2 et 3. Ces états seront bien causés par ce qui précède et donc par l'état 1, mais au moment où l'état 1 arrive, dès lors qu'il y a tout un vécu qui n'a pas encore eu lieu, l'état 2 et l'état 3, enfin leurs caractéristiques, ne sont pas fixées. Elles ne sont pas déterminées avant d'être causées. Pour terminer, les arguments de Bergson, remarquons que l'analyse de Bergson repose sur l'idée que le psychique se distingue du physique, du cérébral, et qu'il est capable d'agir sur lui. Donc on le voit bien dans ce schéma, où le moi psychique produit des volontés qui produisent des actions. Plus globalement, il faut savoir que Bergson défend une position interactionniste, au sens où le corps peut agir sur le psychisme, et vice-versa. Cette position est sans doute celle du sens commun, c'est aussi celle de Descartes et de Popper. Une série d'objections peut être faite à Bergson, dont la principale est « L'interactionnisme revient à considérer que quelque chose de non physique peut avoir des effets sur le monde physique. Ce qui est douteux. Alors pourquoi ? Pas pour une raison scientifique précise, mais parce que cette idée met en cause une vue réductionniste relativement présente en science, la vue selon laquelle tout se réduit à des éléments physiques gouvernés par quelques lois fondamentales. Donc cette vue correspond à un idéal d'intelligibilité scientifique et aussi, au fond, à une vue ontologique chez certains scientifiques et certains philosophes. Alors, je ne vais pas discuter toute cette vue en détail, je voudrais juste, par rapport aux éléments de mon exposé, indiquer deux choses. La première est que si le déterminisme est bien un platonisme des lois, il revient à affirmer que quelque chose qui n'appartient pas au monde physique a une action sur le monde physique. J'ai montré tout à l'heure ce schéma. En fait, ce schéma est emprunté à Penrose. Donc Penrose n'est pas déterministe, mais il défend ce type d'idée, à savoir que si on dit que les lois gouvernent le monde physique, on défend une sorte de platonisme. Donc il y a bien ici une sorte d'action de quelque chose de non physique sur le monde physique. Donc c'est un premier problème. Et deuxième chose, c'est que le rejet de toute interaction psychophysique semble contredire la théorie de l'évolution. C'est un argument très classique pour l'interactionnisme. Rapidement, c'est si les états mentaux existent, c'est qu'ils ont été sélectionnés par l'évolution. Mais s'ils ont été sélectionnés par l'évolution, c'est qu'ils doivent présenter un avantage sélectif et donc avoir des effets physiques. Cet argument, on le trouve chez William James et il est repris par Popper qui fait reposer son interactionnisme beaucoup sur cet argument, en fait. Donc ça, c'était pour des considérations générales. Maintenant, j'en viens aux expériences de Libet. J'ai
encore 5 minutes.
Donc, je vais confronter maintenant ce que j'ai dit de libre volonté chez Bergson à ce que dit Libet. Alors, les expériences de Libet. Le but de ces expériences est de savoir si la volonté consciente d'agir est temporellement antérieure ou postérieure, éventuellement simultanée, à l'activité cérébrale qui conduit à l'action. Si elle est antérieure, il faudrait en déduire que l'action volontaire est engagée par la conscience. Si elle est postérieure, qu'elle est engagée par l'activité cérébrale et la conscience apparaissant alors comme un simple épiphénomène. Le protocole, je vais passer très rapidement, puisque je pense qu'on l'a un peu vu ce matin, le protocole de l'expérience, c'est demander à un sujet de fixer une horloge, de retenir le temps marqué au moment où il décide spontanément d'accomplir une action, en l'occurrence c'est fléchir son poignet vers le haut, et le sujet répète l'opération plusieurs fois, et c'est des séries de 40 décisions, et on observe son cerveau par électroencéphalographie. Alors, le résultat de l'expérience, et on peut le présenter dans le schéma suivant, c'est que, alors finalement, c'est des moyennes, en fait, c'est que, alors que le début de l'action a lieu donc au temps zéro, la volonté consciente, c'est-à-dire le moment où la personne pense décider agir, a lieu 200 millisecondes avant, mais une activation cérébrale dans une aire motrice a lieu en moyenne à peu près une demi-seconde avant. Bon. Donc effectivement, on a l'impression que ce schéma laisse penser que l'activité cérébrale détermine la volonté consciente qui détermine éventuellement l'action. Alors on se trouve que dans une deuxième expérience, Libet... c'est pas la conclusion qu'en tire Libet. Libet fait l'hypothèse que la volonté consciente joue quand même un rôle dans le passage à l'action, non pas le rôle d'initier l'action, ce que semble faire l'activité cérébrale, mais le rôle d'inhiber ou non l'action. Autrement dit, pour Libet, la volonté consciente aurait un rôle de veto. Alors il justifie cela par des considérations psychologiques générales. Il écrit, je cite, « Le fait d'opposer notre veto à une envie d'agir nous arrive à tous communément. » Mais il fait aussi une expérience, et dans cette expérience, il demande en fait à des sujets de s'apprêter à agir, c'est-à-dire en fait à lever concrètement le poignet, et peu de temps avant le début de l'action, à inhiber cette action. Voilà. Et tout ça est observé au point de vue cérébral, Et les résultats sont que le veto semble intervenir effectivement entre les moins 200 millisecondes et les moins 100 millisecondes. Ça veut dire, au fond, que quelque chose qui serait engagé, une action engagée par une activation cérébrale, pourrait être arrêtée par la volonté consciente. C'est, semble-t-il, l'interprétation qu'on peut donner de ce résultat. Une autre expérience suite à Libet a été faite par un autre neuroscientifique qui est Haynes et son équipe. L'expérience a un but similaire. Le protocole est un petit peu différent. La tâche du sujet ne consiste plus à fléchir le poignet, mais à choisir entre appuyer sur un bouton droit avec l'index droit ou appuyer sur un bouton gauche avec l'index gauche. L'horloge est modifiée et améliorée. Je passe les détails, mais effectivement, il y a une amélioration très nette au niveau de l'horloge. Et l'activité du cerveau est observée cette fois-ci par IRM fonctionnel. Alors, le résultat de l'expérience, c'est encore plus frappant qu'avec Libet, c'est que une activation a lieu dans l'aire motrice 5 secondes avant, alors cette fois-ci c'est avant la volonté consciente d'agir, donc c'est bien avant, et par ailleurs, dans deux aires cérébrales, notamment l'aire BA10, donc une aire impliquée dans le stockage de, c'est ce que dit Haynes, dans le stockage de plans d'action conscient. Donc si on se base sur l'activation de cette aire, on peut faire un pronostic légèrement au-dessus de la moyenne sur le fait de savoir si le sujet va appuyer sur le bouton droit ou le bouton gauche. On fait un pronostic une prévision qui est valable à hauteur de 60, enfin qui correspond à 60%, qui a 60% d'exactitude. Donc encore plus nettement que dans l'expérience de Libet, l'expérience de Haynes semble prouver que la volonté consciente d'agir est déterminée par l'activité cérébrale, ce qui semble anéantir l'idée de libre volonté. Alors, au point de vue de Bergson, mais aussi en m'appuyant sur quelques lectures plus contemporaines, deux remarques sur ces expériences. La première question, sur quoi porte-t-elle ? Donc, c'est la première question qu'il faut se poser. D'abord, il est évident que ces expériences ne portent pas du tout sur la volonté réfléchie ou créatrice, c'est-à-dire sur la volonté libre telle que Bergson la conçoit. Alors cela apparaît nettement dans le protocole des expériences de Libet et de Haynes. Dans l'expérience de Libet, je vais indiquer les citations. Donc dans l'expérience de Libet, on demande au sujet de laisser l'envie venir d'elle-même spontanément. Et dans l'expérience de Haynes, on demande au sujet de choisir librement entre l'un des deux boutons quand il ressentira l'envie de le faire. Donc l'idée, c'est, au fond, on ne parle pas du tout de volonté, au point de vue de Bergson, libre, c'est-à-dire réfléchie, mais simplement d'envie. Alors on pourrait répondre que ces expériences portent sur une libre volonté élémentaire, au sens d'un choix conscient sans raison. Cependant, ce concept pose problème, car choisir consciemment, c'est peser et sous-peser des raisons. Au fond, le concept de choix sans raison correspond au concept de choix se produisant de manière totalement hasardeuse. Mais si un choix est totalement hasardeux, on ne peut plus dire qu'il est produit par le moi et donc qu'il est libre. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi Libet et Haynes mobilisent un concept si problématique de volonté libre. Il me semble que ce que dit Bergson permet de le comprendre. Ce concept, en fait, repose sur l'idée qu'une volonté qui s'appuie sur des raisons est une volonté qui a des causes. Et qu'une volonté qui a des causes est une volonté déterminée par des lois et donc une volonté qui n'est pas libre. Autrement dit, ce concept repose sur l'idée que toute causalité, y compris la causalité psychologique, implique l'action de loi et donc le déterminisme. D'où l'idée de chercher la liberté dans une sorte de volonté spontanée qui ne reposerait sur rien, en fait. C'est la première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que maintenant, il y a quand même des résultats. Comment peut-on les interpréter ? Je dirais que, je vais résumer mon idée par le petit schéma suivant. Au fond, si un sujet de ces deux expériences respecte le protocole, on peut dire qu'il est en situation passive d'attendre une envie. Mais cette situation, en fait, correspond à celle d'être agi par une causalité inconsciente. puisqu'il n'est jamais question de raisonner, de faire quoi que ce soit. Et donc, en fait, on place le sujet en situation de non-liberté. Donc, le paradoxe, c'est qu'en fait, on peut dire que les expériences portent sur la non-liberté, et non pas sur la liberté. Mes conclusions, donc, une volonté libre a pour cause le mot entier, c'est l'idée centrale de Bergson sur la libre volonté. La causalité n'applique pas le déterminisme. Les expériences de Libet reposent sur un concept problématique de volonté libre et aboutissent finalement à observer des sujets en situation de non-liberté. Pour terminer, j'ajoute quand même que cela n'implique pas que l'étude de la volonté libre soit en dehors du domaine de la science. Peut-être que ça suppose de toute autre recherche qui ne sont pas du tout dans le cadre des expériences de type Libet. Voilà. Merci.
Voilà, merci. Merci Joël. Nous allons respecter le temps de questions en essayant de ne pas trop prendre de retard. Donc, il y a déjà trois mains qui viennent de se lever spontanément avant même les applaudissements. Donc, voilà, c'est d'abord à Jean-Paul qui trépigne depuis un quart d'heure. Et puis ensuite, nous irons vers le fond et nous reviendrons au premier rang.
J'ai trois questions, mais les expériences de Libet d'abord. Je ne comprends pas pourquoi on se torture l'esprit. On sait très bien qu'il y a une phase de planification, c'est l'ère à 10, une phase de préparation du mouvement, c'est la SMA, et puis une phase d'exécution. Et la conscience, c'est encore au-delà de tout ça. Une des caractéristiques de la conscience dans l'activation du cerveau, c'est que les fonctions spécialisées actives, comme la perception ou la sensation active des aires localisées du cerveau, quand il y a un phénomène de conscience qui se surajoute, c'est une diffusion globale de l'activation à l'ensemble du cerveau. Alors, je ne pense pas que les expériences de Libet amènent une conclusion quelconque sur le déterminisme ou le non-déterminisme de la conscience. C'est mon interprétation personnelle. Ensuite, est-ce que vous établissez une relation entre votre différence entre causalité et déterminisme et la différence qu'a faite ce matin M. Lecuy, qui est Jean-Baptiste Lecuy, qui me paraît assez près, mais peut-être appliqué à un domaine différent. Et la troisième...
Votre question, c'est pardon, je n'ai pas compris.
Vous avez établi une différence dans le modèle qui est intéressante entre déterminisme et causalité. Oui. Il a fait la même chose ce matin.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Et puis, le dernier point, c'est que Bergson a raison de dire que la conscience, ce n'est pas comme la matière. Mais n'empêche que la matière, à un certain niveau d'analyse, se conduit avec une certaine liberté, un peu comme la conscience. Au niveau macroscopique, il y a des lois universelles qui se répètent, mais si l'on va au niveau au niveau quantique et de l'espace-temps, les phénomènes ne se répètent jamais. Donc on peut déjà, au niveau de la matière, trouver cette non-répétition des phénomènes que vous trouvez au niveau.
Alors, Jean-Baptiste Guyon.
Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question sur la troisième partie que vous avez commencé à dire. Voilà, étant posé cette définition du libre arbitre et en tant que ce qui est causé par le moi entier et la définition du déterminisme comme ce qui est nécessité par le passé, enfin en tout cas ce qui est, lorsque le passé détermine les états futurs, il est évident que le libre arbitre ou la libre volonté est incompatible avec le déterminisme. Moi, ma réaction, c'était exactement l'inverse. C'est, étant donné cette définition de la liberté ou de la libre volonté, qu'aujourd'hui, si on prend la terminologie de Susan Wolf, c'est ce qu'elle appelle un « real self view », une conception de la liberté du moi profond, une interprétation de la conception hiérarchique de Frankfurt, où ce qui est important, c'est que les désirs d'ordre différent soient en harmonie les uns avec les autres et que tout ça soit en harmonie avec les désirs de degré le plus profond. Donc ces théories qu'on appelle les théories du real self ou du moi profond sont considérées universellement comme des théories clairement compatibilistes. Et compatible avec quel genre de déterminisme? Ben exactement celui que vous avez dit, celui dans lequel un état antérieur de l'univers plus les lois entraîne de manière, enfin détermine logiquement l'état successif. Dans la mesure où, si on peut très bien concevoir que mon moi profond est réalisé, par exemple dans mon cerveau, par un certain réseau neuronal qui représente mes désirs les plus profonds, ma représentation de moi-même, etc. On prend l'ensemble de tous ces désirs et de toutes ces représentations de moi-même. Il se peut très bien que cela détermine ce que je vais faire, donc mon action provient de là, mais cet état lui-même est déterminé par les états antérieurs de l'univers, par mon éducation ou par ce qui a créé mon zygote éventuellement, enfin ma cellule œuf, etc. Et donc il est tout à fait possible que je sois libre dans le sens d'un real self, d'un moi profond, parce que mon action vient de mon moi profond, et néanmoins je suis totalement déterminé.
Bien, merci. Alors Jean-Baptiste Lecuy.
Je pourrais pas répondre à la question.
Voilà, et puis on va rester là pour une première série. Hein?
Non, je rigole.
Jean-Baptiste, une question simple et brève.
J'ai une objection, enfin une incompréhension concernant le fait qu'il n'y a pas de loi psychologique possible. Parce que la singularité des états du cerveau ou de l'esprit, enfin ou de la personne, peut être comparée à la singularité des états de la Terre, par exemple. La Terre ne passe jamais deux fois exactement dans le même état. Pourtant, il viendrait à l'idée de personne d'en faire un argument contre l'existence de lois qui gouvernent les changements de la Terre. Donc il n'y a pas de loi psychologique générale, mais il peut y avoir des lois de niveau inférieur qui, prises ensemble, déterminent le tout.
Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit précédemment. Alors, Joël.
Je vais peut-être répondre aux questions en commençant par les dernières et en remontant... Au premier, alors sur la dernière, effectivement, je pense que c'est un vrai problème que je n'ai pas pu développer pour des questions de temps, mais je ne sais pas si Bergson, le chapitre 3 de l'essai est très court, donc il ne développe pas tout, mais on comprend bien que sa réponse serait la suivante, c'est que quand on dit qu'un état psychologique est singulier, c'est quelque chose qui n'est pas décomposable. Ça veut dire je ne peux pas décomposer cet état en état psychique singulier et je ne peux pas le réduire à des états physiques en état psychique plus simple, qui seraient eux-mêmes des instances de genre, et ou pareil, en réduction physique. Et donc, on a quelque chose, une totalité, quelque sorte, qui n'est pas décomposable. Pour la Terre, voilà, je pense qu'il dirait qu'au fond, effectivement, c'est très complexe, mais à la fin, ça peut se ramener à des états élémentaires qui, eux, sont des instances de genre. Alors, c'est ce qu'il répond, est-ce qu'il a raison ou pas, c'est une autre question. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il... répondrait. Sur, effectivement, la question sur le compatibilisme, alors, effectivement, j'ai pu lire un peu donc, ces auteurs, donc Frankfurt et puis Wolf, et effectivement, j'étais frappé, j'ai l'impression, en lisant Wolf, de lire Bergson. Donc, j'ai la même impression que toi. Mais en fait, effectivement, il y a quand même, dit, il me semble, et ce que tu ne dis pas dans ta question ou pas, tu ne fais pas ressortir, c'est la question des lois. C'est-à-dire que je pense que c'est pareil, si vraiment on défend la thèse déterministe, je pense que le problème c'est que le déterminisme ne doit pas se cacher derrière son petit doigt, si je puis dire. C'est que si on est déterministe, on dit qu'il y a des lois qui gouvernent l'univers. Et donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas moi, qui fait que ma décision est telle ou telle. Évidemment, si on réduit les lois au processus, on a caché en quelque sorte cette altérité qui agit. Mais si on a des lois qui gouvernent les processus naturels, on a bien un acteur qui n'est pas moi. Et donc, ça veut dire que ma décision ne dépend pas que de moi. Au fond, moi, j'ai des états. Les lois font que tel état donne tel autre. Mais moi, je ne fais que passer par des états. Et le passage d'un état à un autre est assuré, si je puis dire, par les lois. Donc, chez Bergson, je dirais, au point de vue psychologique, il serait d'accord avec ses auteurs. Mais au point de vue métaphysique, il serait en désaccord complet. Au sens où, effectivement, le débat devient essentiellement métaphysique. Mais au niveau psychologique, ce sont les auteurs les plus proches des idées de Bergson, au fond. Et alors, je reviens maintenant aux premières questions. Alors, je pense que Bergson avait parlé de ça, mais je pense que c'est aussi une idée aujourd'hui qui a une réponse qui est assez répandue. C'est, effectivement, on peut dire qu'il y a de la détermination dans la matière, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a de la liberté ? Au fond, si on définit la liberté par la réflexion, par la création, la matière, il y a peut-être de la détermination, ça ne veut pas dire qu'il y a de la liberté, en fait. Il manque quelque chose. C'est difficile Voilà, donc...
Oui, mais c'est un argument contre le
déterminisme, oui, bien sûr. Tout à fait. Absolument. C'est un argument contre le déterminisme, mais ce n'est pas un argument en faveur de la libre volonté. Non, je suis d'accord.
Non, mais c'est pas ce que j'ai
dit. Oui, pardon. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui. En tout cas, ça, c'est une question à laquelle il ne répond pas. Oui, oui. Pour le rapport, effectivement, avec ton exposé de ce matin, je pense que le lien, enfin, ce qui m'a frappé, moi, c'est la notion de singularité. C'est de dire qu'il y a des causes ou des séries causales qui sont, ou des causalités qui sont singulières, et donc que de ce fait, on ne peut pas dire qu'elles sont déterminées. Je pense que c'est la notion de singularité qui est très claire dans l'essai, hein, et qui était aussi, que tu évoquais aussi ce matin. Et sinon, oui, pour la question de la conscience, alors effectivement, c'est vrai qu'on a tellement fait des critiques de Libet qu'on peut dire, bon, au fond, le problème est tranché.
Non, c'est parce que aussi les actions sont répétitives, et alors ça, les actions seraient à improviser sur le moment,
Oui, mais je pense quand même que Libet, moi je pense que c'est quand même intéressant son travail, et l'élément intéressant c'est que le sujet rapporte un phénomène conscient. Donc il dit...
Mais c'est pas la même conscience.
Oui, mais c'est une conscience.
Il y a la préparation, la planification, c'est une conscience. On planifie,